africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une plongée dans le banditisme au féminin. Elles ne font pas toujours la une des journaux, elles jouent les discrètes, mais les femmes aussi peuvent être hors la loi, tâter de la gâchette et passer par la case prison. Et il faut s'y habituer, hein. Il n'y a plus d'activité réservée aux seuls hommes, pas même celle de voyous. Voyous, comment dit-on au féminin, voyouses, malfrates, je ne sais pas, voyelles, peut-être comme disait Claire Hédon tout à l'heure. Enfin, comment parler des femmes qui se font leur place dans le milieu? Qui sont-elles? Comment sont-elles tombées dans l'illégalité? Sont-elles légales des hommes aussi dans la délinquance? On en parle aujourd'hui avec deux spécialistes. Un journaliste d'investigation, auteur de « Femmes hors la loi » aux éditions Fayard, c'est Frédéric Ploquin. Bonjour.
Bonjour.
Vous l'avez quand même écrit avec une femme, ce livre.
Absolument.
Maria Poblette. Ça manquait de parler des femmes, parce que c'est quoi? C'est le cinquième numéro, hein. Vous avez fait toute une série consacrée aux parrains Écaïdes, et ça, c'est la livraison féminine, je dirais.
Ça fait une vingtaine d'années, on peut dire, que je creuse le monde de la délinquance, de la grande délinquance, du crime organisé, en France tout particulièrement, et dans le monde aussi, puisqu'évidemment... Une partie de la criminalité française vient du monde, vient d'ailleurs. Et depuis ces années que j'observe ces hommes, je les écoute parler des femmes, de la place des femmes. La plupart du temps, ils essaient de minimiser. En gros, les mecs font tout et puis les filles derrière,
les
pas grand-chose.
Les mains qui n'agissent pas forcément directement. Mais parce là, vous montrez le contraire. On va en parler.
Les bandits ont un ego souvent démesuré et les femmes, en général, ils essaient de les cacher. Donc là, j'ai voulu les mettre en lumière. C'est le but de ce livre, et montrer leur véritable rôle.
Et vous êtes spécialiste des affaires de police et justice au magazine Marianne. Avec nous en duplex de France Bleu Toulouse, Christophe Regina. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du genre, enseignant, chercheur aujourd'hui donc à Toulouse, à l'ESPE Midi-Pyrénées. Et alors vous avez vous intéressé à cette question-là au niveau de l'histoire, puisque vous avez publié La violence féminine, histoire d'un tabou social, c'est aux éditions Max Milo. Nous aurons également François Cardona, qui est correspondant en direct du Brésil, et le banditisme au féminin, eh bien c'est une réalité à Rio. Il va nous parler des gangs de blondes. Les voisins, les voisines, si le sujet vous inspire, vos questions, vos commentaires au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook pour parler des femmes bandits. Alors, il y a beaucoup de messages, hein. C'est un sujet qui passionne, qui inspire les auditeurs. Il y a Lily Aniamé qui, pour elle dit carrément qu'un gang de femmes est beaucoup plus dangereux qu'un gang d'hommes, c'est ce qu'elle affirme, vous allez nous dire si c'est le cas ou pas. Il y a Josiane à Kinshasa qui dit qu'en RDC, ça s'appuie, tout le banditisme, le socle du banditisme s'appuie sur les prostituées. Dès que vous êtes dans leur filet, elles vous dépouillent de tout et surtout de votre argent. Guillaume à Goma aussi nous dit que les femmes sont des bandits de second plan pour lui. La criminologie a prouvé qu'elles sont souvent plus complices qu'auteurs réels de mauvais coups. Je ne sais pas si vous serez d'accord, Frédéric Ploquin. Continuez les voisins, les voisines avec vos commentaires sur Facebook et au 33 1 84 22 71 71. Alors s'il est un milieu quand même où le machisme bat son plein, c'est bien celui du crime. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Frédéric Ploquin, c'est vraiment d'abord une affaire d'hommes, des vrais qui en ont, comme on dit. C'est tellement misogyne à ce point-là que les femmes sont dans l'ombre.
Ben, du coup, effectivement, celles qui arrivent à se faire un nom et à se faire remarquer, elles ont un caractère, une personnalité hors du commun en général. Précisément parce que c'est un monde qui n'est pas là pour leur faire de la place. C'est un monde où on parle beaucoup testostérone, où on parle beaucoup... excusez-moi, mais c'est vrai que le mot « avoir des couilles » revient tout le temps dans la bouche de ces voyous. C'est vraiment leur mot clé. J'en ai pas. Celui qui en a, il fait... Bon, voilà, c'est le mot qui revient. Donc c'est une référence directe au sexe masculin. Et les femmes y répondent. Et c'est une expression que certaines de celles qu'on a rencontrées, parce que pour faire ce livre, on en a rencontré une bonne trentaine, c'est une expression que certaines femmes font sienne. soit elle la livre telle qu'elle, soit elle l'en transforme et elle l'adapte, elle la féminise.
Alors c'est tellement misogyne qu'à un moment vous donnez la parole à un commissaire, vous reprenez ses propos et vous dites comment un manouche, un black ou un maghrébin peut recevoir un ordre d'une femme.
Bah parce que c'est ça le milieu c'est quand même un univers extrêmement autoritaire d'hommes qui battent des coudes, qui jouent des coudes pour s'imposer, être sur la première marche du podium toujours en permanence. Quand vous regardez l'histoire du banditisme marseillais, c'est ça, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de morts pour occuper la première place. Donc on a du mal, certains policiers ont eu beaucoup de mal à imaginer que des femmes puissent entrer dans leur décor, dans leurs préoccupations. Et d'ailleurs, je pense que ces femmes, les femmes, en ont longuement profité. Vous savez, la police judiciaire a commis ces 30 dernières années, on va dire, deux grandes erreurs. La première, c'est de ne pas avoir cru à l'émergence d'un nouveau milieu caïd issu des cités, capable de brasser des millions dans le trafic de stupéfiants. Ils les ont pas vus venir parce qu'ils y ont pas cru et qu'ils restaient scotchés au bon vieux voyou à l'ancienne. Et la seconde, c'est d'avoir longtemps, disons, minimisé la part et le rôle des femmes et d'être passé à côté complètement. Et je peux vous dire qu'elles en ont profité.
Oui, alors justement, Christophe Régina, vous êtes historien. La violence féminine, un tabou social, écrivez-vous. Hein, c'est aux éditions Max Milo. Est-ce qu'il n'y a pas que la faute de la police, il y a peut-être la faute de la société générale où cette violence féminine est tellement tabou qu'on ne veut pas la voir, hein?
Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai pu montrer dans le cadre de mes recherches que les femmes aujourd'hui ne sont pas spécifiquement plus violentes qu'au XVIIIe siècle notamment. C'est juste qu'on y accorde aujourd'hui de plus en plus d'importance, alors qu'il y a encore pas si longtemps que cela, en fait, on reléguait les femmes à certains types de criminalité, l'infanticide, l'empoisonneuse, etc. Des figures en fait qui figeaient la violence féminine, alors qu'au contraire, en fait, la violence est un terrain de rencontre aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que les femmes sont plus violentes, elles sont juste plus visibles dans l'exercice de la violence.
Au nom de l'égalité, vous, en fait, vous écrivez que de l'égalité des sexes, en fait, la femme est un homme violent comme un autre, à travers vos travaux historiques.
Oui, enfin, moi, je dirais que la femme, comment dirais-je, est capable de violence au même titre qu'un homme, et qu'on ne doit pas justement chercher à catégoriser l'action violente des femmes en la masculinisant. Par exemple, quand j'ai lu donc Monsieur Ploquin, c'est vrai que régulièrement les femmes réinvestissent les codes donc masculins en revendiquant avoir d'une paire donc de couilles, pour reprendre l'expression qu'elles aiment à citer, mais c'est tout simplement en fait pour elles un pis-aller, parce qu'elles ont déjà la faculté d'exercer la violence et sous toutes ses formes, et en fait elle cherche entre guillemets à légitimer par des codes qui sont connus une violence qu'elle pratique déjà de fait.
Alors dans quel domaine, je dirais, elles se font remarquer, dans quelles activités, Frédéric Ploquin, avant de prendre Adrien qui nous appelle de Douala?
Bah écoutez, aujourd'hui, la voyoucratie, sa principale source de revenus, c'est devenu le trafic de stupéfiants. Et dans le trafic de stupéfiants, depuis toujours, les femmes ont une place, ont un rôle. J'en ai retrouvé une là dont on raconte un peu le parcours dans le livre qui travaillait.
C'est Soso la grosse.
Elle, c'est un peu plus récent, mais il y en a une qui s'appelle Liliane, qui travaillait à l'époque de la French Connection et qui donc transportait l'héroïne depuis l'Argentine jusqu'à Miami, puis de Miami à New York avec son homme, et puis aller au fin fond des États-Unis auprès des Noirs américains, parfois récupérer des sommes d'argent que ces hommes devaient à son homme. Donc il y a celles-là qui ont déjà un parcours ancien derrière elles, et jusqu'à aujourd'hui, où dans les quartiers, dans les cités, il n'y a pas que les hommes qui recourent à ce moyen pour se faire de l'argent. Donc voilà, ça c'est pour les stupéfiants qui occupent quand même une grande place. Mais après, à côté de ça, il y a aussi dans les prisons françaises beaucoup de femmes qui tombent pour escroquerie, parce qu'elles ont là aussi peut-être un savoir-faire particulier ou une approche des victimes qui fait que les victimes tombent plus facilement sous le charme. Ensuite, il y a tout le monde de la délinquance qui tourne autour des activités sexuelles, c'est-à-dire la prostitution, le proxénétisme. Et là, on peut dire que la mère maquerelle, ce profil-là, est dans le paysage criminel français depuis déjà plus d'un siècle. Il y a une vraie tradition qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a également, et ça va surprendre davantage les auditeurs, on a également trouvé des, ce qu'on les classe dans le chapitre guerrière, des femmes qui sont capables d'accompagner d'appuyer le mouvement et de monter sur des braquages, ce qui est quand même pas si fréquent, mais ça existe, on en a trouvé. Donc là, c'est parce que pour le braquage, c'est une activité très physique.
C'est l'aristocratie dire. Aussi des bandits, c'est ce que j'ai découvert.
Voilà, dans les aristocrates.
Il y a aussi des femmes qui seules font des braquages. Absolument. Alors on va tout de suite avoir Adrien qui nous appelle de Douala, qui est étudiant et qui justement entre deux cours peut écouter RFI. Bonjour Adrien, on vous écoute.
Bonjour Sandrine. Voilà, je suis à Douala au Cameroun et je voudrais témoigner par rapport à l'émission, au thème de ce jour, pour dire qu'il y a environ 5 ans, dans le quartier où je vivais avant, j'avais remarqué là une jeune fille qui faisait partie d'un gang, une jeune fille d'environ 25 ans, et elle était en fait la copine du chef de gang, et comme ça, le gang se servait d'elle comme appât et comme espionne pour pouvoir avoir suffisamment des informations sur les potentiels cibles. Et ces informations leur étant donc rapportées par cette jeune fille-là, pouvait mieux connaître leur fille et préparer leur coup. Et comme ça, comme elle était la copine du chef de gang, elle était un peu protégée par les éléments du gang. Donc, cette fille-là, justement, leur rendait un grand service dans la mesure où elle leur permettait d'avoir suffisamment des informations sur leur potentiel.
Merci beaucoup, Adrien, pour votre témoignage. Donc, c'est la femme, la copine du chef, la femme du chef, et c'est elle qui agissait.
La femme du chef, elle a une place particulière, mais ce rôle d'appât, il est assez fréquent aussi dans la criminalité, parce qu'effectivement, les hommes savent jouer, alors pour le coup, purement des charmes, en général, physiques de ces femmes, et s'en servir d'appât. Moi, je pense notamment, là j'ai retrouvé pour l'enquête, les jeunes filles qui avaient servi d'appât à l'abominable Youssouf Fofana, précisément, qui, vous vous souvenez, avait fait enlever un jeune juif en plein Paris pour le torturer et le laisser pour mort après avoir tenté d'obtenir une rançon. Et les femmes qui avaient levé, entre guillemets, cette victime, nommée Ilan Halimi, avaient pour elles le charme. Elles étaient mineures, elles avaient 16-17 ans et elles ont fait ça, ce rôle d'appât, pour une paire de bottes au départ, c'est-à-dire pour pas grand-chose. Donc il y a ce côté-là. Et il y a la femme du chef. Alors la femme du chef, notamment parce que il y a une tradition aussi en France méditerranéenne, corso, marseillaise. Je suis allé aussi dans cette direction pour enquêter. Et là-bas, la femme du chef, quand le chef, par exemple, meurt, il arrive en Corse quand même ou à Marseille que des grands voyous se fassent tuer.
Oui, ou partent en prison.
En prison. Et les femmes, la femme du chef peut prendre la place, prendre l'espace, occuper l'espace, récupérer le territoire, parce que le banditisme, c'est beaucoup une question de territoire à contrôler. Et on en a vu certaines femmes, notamment en Corse et à Marseille, investir véritablement le territoire, les armes à la main, au risque de subir les mêmes foudres, les mêmes balles que les hommes.
Alors nous verrons quelle forme de violence jusqu'au 19e avec Christophe Regina. On va d'abord écouter un disque et on revient tout de suite. On écoute Russian Girl de Zhenia Lubich.
Especially you love it's like a tank. It may drive you mad so you could rob a bank. I am just a simple Russian girl. I've got the vodka in my blood. So I dance with brown bags and my soul is torn apart. Oh, I dance with brown bags and my soul is torn apart. Let me go. I won't ever try to do this anymore. I'll kiss you in your cheeks 3 times. This is a tradition, don't you be surprised. I am just a simple Russian girl. I've got vodka in my blood. So I dance with brown bags and my soul is torn apart. Oh, I dance with brown bags and my soul is torn apart. Oh, die.
les femmes hors la loi aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Alors, quelle forme de violence on, puisque c'est aussi un objet d'histoire, hein. Christophe Regina, vous êtes enseignant, chercheur, historien du genre. C'est un sujet qui vous a intéressé avec votre livre « Violence féminine, un vrai tabou social » aux éditions Max Milo. Alors, quelle forme de violence, quand vous êtes penché dans les archives, quand vous avez étudié tout ça, qu'est-ce que vous avez remarqué sur cette forme de violence jusqu'au 19e siècle ?
Eh bien, les archives donc, judiciaires permettent de mettre en exergue deux choses. Première chose, que les femmes, très souvent pointées comme minoritaires ou moins représentées que les hommes, en fait, sont quasiment à égalité représentées dans ces archives judiciaires, et que les formes de violence les plus spécifiques et de criminalité sont celles qui concernent bien évidemment les violences physiques. Et les femmes ne sont pas les dernières donc, à se battre physiquement, à s'injurier. Et on distingue ensuite d'autres formes de criminalité plus, je dirais, attendues, qui concernent la prostitution, mais également le vol, qui finalement est beaucoup plus finalement puni sévèrement que les affaires donc de prostitution et qui ont trait aux mœurs. Et également, bien sûr, des cas aussi d'infanticide, mais qui, rapportés à la masse des procès, sont vraiment une goutte d'eau dans l'océan de la criminalité féminine. Donc,
est-ce qu'il y avait déjà des gangs de filles?
Alors, il y avait effectivement des associations professionnelles, à Marseille notamment, que j'ai étudié. On avait des regroupements, par exemple, par profession, les poissonnières, etc., qui se disputaient férocement, en fait, les meilleurs emplacements pour vendre les poissons, et etc. Et donc, il y avait une association, effectivement, de protection mutuelle des femmes qui n'hésitait pas à jouer du couteau, hein, pour, justement, écarter ou évincer celles qui allaient les déposséder du meilleur emplacement pour faire leur commerce.
Et alors, comment ces femmes entrent dans le milieu, Frédéric Ploquin, par exemple, ce que je lis, d'abord, c'est par amour, hein, c'est différent des hommes dans la manière d'arriver dans ce milieu.
Il y a différentes façons, effectivement. Il y a celles qui naissent dans une famille de voyous. Et là, c'est le frangin qui, à un moment donné, dès l'âge de 15-16 ans, va demander des services, va associer la petite ou la grande sœur parce qu'il a confiance et il la met sur la piste. Et après, il y a celle qui accroche et celle qui n'accroche pas. Il y a ensuite les filles d'eux. C'est-à-dire quand on a un père qui a une aura dans le milieu, une personnalité et puis des biens, parce que le milieu rapporte de l'argent, ce métier, hein. Donc des biens, des boîtes de nuit, des discothèques, etc. Quand on a un père qui a toujours travaillé là-dedans et que dès l'âge de 12-13 ans, même si le papa n'a pas voulu vous entraîner là-dedans, de fait, il vous a présenté ce monde, et que votre père disparaît, on en a une qui se prénomme Aurélie, qui va prendre littéralement la place du père lorsque le père va mourir par balle. Donc on a cette deuxième possibilité. Donc la famille, mais il n'y a pas que l'amour. L'appât du gain est quelque chose qui est partagé par les deux sexes. Ça ne concerne pas que les hommes. Et donc, il peut y aussi avoir des femmes qui, sans passer par l'étape amoureuse, directement vont suivre le mouvement et rentrer dans la danse. Mais pour rebondir sur ce que disait notre témoin sur la violence, effectivement, moi, je constate, parce que je leur ai parlé de ça, de la bagarre, beaucoup, et j'ai constaté que la plupart de celles qu'on avait rencontrées savaient vraiment se battre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, de savoir se battre dans la rue. Parce qu'elles ont quand même, comme les voyous, grandi dans la rue. Et dans la rue, elles ont appris. Elles ont appris très tôt. Et il y en a un certain nombre avec lesquels même un homme ne se frotterait probablement pas, parce qu'il serait assez rapidement séché. Vous savez, la bagarre, c'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire de savoir-faire.
Oui,
faut
oui.
Savoir où placer les coups. Et parfois, elles sont assez bonnes dans ce domaine.
Elles peuvent être à l'égal de l'homme, voire supérieures.
Absolument.
Alors, comment les femmes font leur place dans le milieu du banditisme? On va continuer dans 3 minutes avec vous, Frédéric Ploquin. Vous publiez chez Fayard Femmes hors la loi, et Christophe Regina, historien. On se retrouve dans 3 minutes, donc après le flash, les voisins, les voisines, avec vos réactions, vos commentaires. On a des messages qui arrivent d'Abidjan, de Douala. On vous écoute dans 3 minutes après le flash au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook.
RFI, la sélection.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Merci de nous rejoindre, les voisins, les voisines, on les appelle les voyous, les voyoutes, je ne sais pas. pas, les malfrats, je ne sais pas qui sont ces femmes, donc qui se font une place dans le milieu du crime à la française. Elles ne sont plus les petites mains, mais des actrices de premier plan. Comment sont-elles arrivées là? Par amour ou parce qu'elles ont grandi dans une famille de malfrats, hein? Après, vous nous avez dit, Frédéric Ploquin, donc vous écrivez un livre « Femmes hors la loi, le banditisme au féminin en France » chez Fayard avec Maria Poblette. Et également avec nous en direct depuis France Bleu Toulouse, Frédéric Regina, donc historien du genre aussi. Vous publiez « Violence féminine, le tabou social » chez Max Milo. Alors, on attend vos réactions, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Des gangsters, donc, dans votre livre qui dévoilent tout un pan de leur histoire. On a des anecdotes de vie aussi dans votre livre, Frédéric Ploquin. Et côté violence, vous nous l'avez dit, les femmes ne reculent pas devant la bagarre. Mais comment vous avez fait pour les faire causer, je dirais? Parce que c'est quand même souvent, vous dites, les femmes, ce sont des vraies tombes. C'est ce qui les caractérise aussi dans leur manière d'être dans ce milieu. Comment vous les avez fait parler?
C'est une des choses qui nous a surpris dans l'enquête. C'est une enquête qui nous a pris très 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 longtemps. Le livre vient de sortir, mais ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Et ce qui m'a étonné, c'est que qu'on a eu plus de mal à convaincre les femmes de nous parler que je n'ai de difficultés avec les hommes voyous. Probablement parce qu'elles ont plus l'habitude de rester précisément au second plan, dans l'ombre, et qu'elles ne veulent pas apparaître. Ça, c'est la première raison. La deuxième, j'en ai eu aussi une ou deux qui ont objecté du fait qu'elles avaient des enfants, qu'elles allaient chercher à l'école. Ça, les hommes, ils sont un peu, par rapport à ça, c'est pas forcément leur préoccupation, qu'elles voulaient pas se montrer, et sous leur nom en tout cas, pour cette raison-là. Raison pour laquelle il y a quelques témoignages qui sont restés anonymes dans le livre. Moi, je m'intéresse plus à la matière plutôt qu'au nom ou au véritable prénom. Et donc voilà, ça a été compliqué. Il y a aussi celles qui craignaient des représailles de la part des hommes si elles s'exprimaient, parce que leur homme ou leur frère ou leur père était en prison et qu'elles hésitaient un peu à se lâcher, on va dire.
Vous avez réussi à les convaincre.
C'est mon métier. Je peux vous faire parler.
Alors, on va faire un tour dans l'histoire avec vous, Christophe Regina. La violence, est-ce que vous l'avez étudiée, vous, comme une conséquence de l'émancipation des femmes?
Pas vraiment, non. Parce que si on partirait de ce postulat, ça voudrait dire qu'avant l'émancipation des femmes, telle qu'elle intervient vraiment au XXe siècle, il n'y aurait pas vraiment de violence fréquente avant ce moment-là. Or, en fait, mes travaux ont montré que la violence est un territoire sur lequel les femmes s'aventurent, et de longue date, puisque j'essaie d'avoir une approche assez longue dans cet essai, puisque je remonte au temps biblique et au temps mythologique, pour montrer déjà comment, en fait, la lecture de ces violences féminines était traduite et aussi finalement minimisée dans un même élan. Mais non, je ne pense pas que l'émancipation des femmes a accentué le phénomène de la violence des femmes. Elle a juste rendu, là encore une fois, beaucoup plus visible.
Mais est-ce qu'elle vous fascine, ces femmes qu'on peut dire fortes?
Alors, est-ce qu'elles me fascinent? Oui et non. Enfin, il me semble juste légitime de leur rendre, en fait, finalement ce qui leur revient, et d'arrêter de les poser, en fait, comme des victimes, finalement, et de réduire la masculinité au statut de bourreau. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore un travail très long à effectuer. Et au-delà, en fait, de cette question des violences des femmes ou des travaux donc de Frédéric Ploquin, ce qui est intéressant de questionner, c'est le statut de la femme criminelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont jugées de la même manière que les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, quelques distinctions qui sont faites dans la façon de se comporter avec elles? Et dans les témoignages, donc, à la fin, qui sont proposés dans l'ouvrage de l'invité, c'est vrai que j'ai été assez surpris par le propos d'un avocat qui disait que une femme avocate avait beaucoup plus de chance de se laisser séduire par l'accusé qu'elle protège, alors qu'un homme, ça, c'est impossible, il ne pourra pas se laisser corrompre. Bon, là, on voit encore quand même qu'il y a quand même des choses qui ne jouent pas à ce niveau-là. Donc,
alors, pourquoi la justice, donc, à crime égal, ne condamne-t-elle pas forcément l'homme et la femme de la même manière, Frédéric Ploquin?
Juste une anecdote sur un avocat qui défendait une grande voleuse, une pickpocket, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement... Frédéric Regina l'a noté, elles sont aussi très douées pour le vol.
C'est Christophe, donc, pardon.
Non, Christophe, hein, pas Frédéric.
Vous êtes tout le monde ne s'appelle pas Frédéric.
Non, vous êtes trompé tout à l'heure, vous l'avez appelé Frédéric.
D'accord.
Et donc, il va voir dans la cellule en prison cette femme, et il a un entretien d'avocat à cliente, et puis à un moment donné, au moment où il part, il doit repartir et la femme lui dit « Tenez, vous allez oublier votre portefeuille ». Et en fait, elle avait pendant l'entretien subtilisé le portefeuille. Donc il y a ce rapport. Mais effectivement, les avocats, c'est en fait quand ils vous disent la vérité, c'est exactement pareil que pour qu'à l'inverse, les femmes qui se font les femmes avocates qui tombent sous le charme de quelques grands voyous et qui finissent au parloir par faire des câlins au lieu de s'occuper de la cause. Et ça arrive également aux hommes, et je crois qu'il leur faut parfois résister énormément, parce que le charme fait partie de l'arsenal du voyou. C'est quelque chose d'extrêmement important. Après, devant le tribunal, le charme n'opère pas de la même manière sur les magistrats que sur les magistrates. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui jugent plutôt que d'hommes aujourd'hui. Il y a
se féminise aussi cette formation.
La proportion, ouais, c'est complètement inversée. On a beaucoup de femmes dans les tribunaux et que les femmes voyeuses appréhendent énormément d'être jugées par ces femmes qui vont avoir tendance à ne pas supporter, ne pas accepter qu'une femme comme elle soit passée de l'autre côté de cette façon-là et qui vont du coup de fait cogner plus fort et réclamer des peines supérieures. J'ai entendu énormément cette idée-là. Et ça court les tribunaux, si bien que les femmes préféreraient souvent être jugées par des hommes.
Alors le banditisme au féminin, c'est aussi une réalité, une réalité au Brésil, notamment dans la ville de Rio de Janeiro, où nous retrouvons notre correspondant François Cardona. Bonjour François.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous en direct, parce que vous êtes quand même très pris là avec la destitution de Dilma Rousseff en ce moment. Mais les femmes ont pris une place aussi de plus en plus importante dans la grande criminalité chez vous.
Oui, l'égalité homme-femme, si l'on peut dire, s'étend désormais aux bandes criminelles armées, aux trafiquants de drogue. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau au Brésil, de voir comme ça des femmes plongées dans ce genre d'affaires, mais c'est vrai que ça a pris de l'ampleur ces dernières années, et les femmes ici ont désormais une place de plus en plus importante dans la petite et dans la grande criminalité. Alors, comme ici par exemple à Rio, avec ces arrestations en série de trafiquants de drogue ces dernières années par la police, à cause de la politique d'occupation des favelas par les forces de l'ordre, eh bien, les chefs en fuite comptent souvent sur leurs épouses pour faire le lien avec leurs lieutenants pendant qu'ils sont en cavale, et quand ils sont arrêtés, eh bien, les affaires ne s'arrêtent pas pour autant, et souvent les chefs de trafic de drogue continuent de gérer à distance leurs affaires avec l'aide de leurs compagnes. Certaines d'ailleurs finissent parfois par prendre la tête de leur business en gérant leur argent, leurs biens immobiliers, et certaines ont fini par devenir parfois incontournables, à devenir un lien finalement indispensable entre le patron qui est derrière les barreaux et ces hommes qui sont sur le terrain.
Donc les femmes et les jeunes filles même jouent-elles aussi le rôle de second couteau comme les hommes ?
Oui, bien sûr, hein, dans les gangs de Rio et ailleurs au Brésil, bien sûr, évidemment, les adolescents sont quand même majoritaires, mais les filles, elles aussi évidemment tombent dans la délinquance ici au Brésil et elles finissent par en adopter souvent les mêmes codes de conduite. L'une d'entre elles, par exemple, célèbre dans la banlieue nord de Rio, a été arrêtée il y a quelques semaines. Elle avait posé sur une photo postée sur les réseaux sociaux avec son pistolet, ses bijoux, ses ongles peints, maquillée et avec un grand sourire. Avoir cette photo, on y voyait presque une caricature de femme bandit. Mais souvent aussi, il y a aussi des problèmes parce que les épouses qui aident parfois, comme on l'a dit, leur mari trafiquant, par exemple pour faire rentrer des puces de téléphone portable en prison ou y faire passer des messages, eh bien les fouilles à l'entrée sont devenues presque un enfer pour tous les visiteurs, justement, pour les femmes, bien évidemment, qui sont souvent fouillées au corps de manière très intime et parfois même mises dans des positions humiliantes par les gardiens.
Mais alors ces femmes criminelles qui deviennent bandits, font-elles tout autant parler d'elles que les hommes au Brésil ?
Alors quand elles savent être inventives, eh bien les médias brésiliens, oui, ils sont friands de faits divers et ils se passionnent pour ces femmes bandits, comme par exemple il y a 2 ans à São Paulo, un gang de femmes a été rapidement surnommé le gang des blondes par la presse, un gang de femmes qui avait commis de très nombreux enlèvements express dans la capitale économique brésilienne pour obliger leurs victimes, toujours des femmes, souvent des blondes, à leur remettre leur code de carte bleue. Et bien ce gang de blondes se faisait ensuite passer pour leurs victimes en faisant des achats à leur place. La police a fini par arrêter certaines des membres du groupe, des blondes, mais la plupart courent toujours.
Merci beaucoup, hein, François Cardona, donc en direct de Rio. Des gangs de blondes en France, on en a repéré, Frédéric Ploquin.
Oui, mais elles étaient décolorées.
Donc elles savent être inventives. Est-ce que vous avez des exemples en France, effectivement, de femmes comme ça qui ont su faire des choses où là, on ne les attendait pas forcément assez décalées?
Bah écoutez, oui, il y en a, celle qu'on retrouve notamment, cette femme que j'ai rencontrée à Marseille, qui a grandi dans les quartiers, dans une famille, elle avait des oncles qui l'ont formée, qui étaient des bons gros voyous marseillais, et qui à un moment donné, moi c'est là où elle m'a énormément surprise, elle me sort comme ça, les yeux dans les yeux, mais moi, si je pouvais être la numéro un à Marseille demain, je le serais. C'est-à-dire qu'elle m'a surpris plutôt, non pas par ses procédés, mais par cet aplomb incroyable. C'est une femme qui est pas très grande, qui du coup, quand elle était gamine, à 12-13 ans, quand elle a commencé à apprendre à conduire, une anecdote comme ça en passant, comme elle n'atteignait pas les pédales de la voiture parce qu'elles étaient trop loin, elle s'équipait ses chaussures à talons, elle équipait ses chaussures à talons de canettes de coca ou de bière qu'elle installait en dessous, qu'elle accrochait pour pouvoir atteindre les pédales. Et c'est ainsi que cette femme a appris à conduire à l'âge de 12-13 ans, à faire du karting, à conduire vite et rapidement. Et cette femme, 10-15 ans plus tard, c'est comme ça, c'est imaginé reine de Marseille. Et il y a une scène comme ça qu'elle nous raconte, qu'on raconte dans le livre, où elle est à bord d'un bolide, d'une voiture extrêmement rapide sur les autoroutes dans la banlieue de Marseille.
Taxi
et elle sème la police, elle les sème, et ils approchent à un moment donné. Et elle a un homme à côté d'elle, à sa droite. Et comme elle a pas le permis à ce moment-là, ou elle a plus le permis, etc., qu'est-ce qu'elle fait à 220, le compteur bloqué sur 220 km/h? Elle change de place dans la voiture sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'elle arrive à passer sur le siège de droite, et le gars qui est à sa droite passe au volant, parce que lui, il a le permis. Et sauf que les policiers voient la scène et donc faut lui imputer l'excès de vitesse à elle par la suite.
En tout cas, pendant votre enquête, Frédéric Ploquin, vous êtes arrivé à un autre petit miracle. Hein, vous avez tous ces témoignages de femmes que vous avez récoltés. On vous dit oui pour passer une semaine dans la prison de femmes de Rennes. On en parle après Outlaw, Ina Modja. That I'm no good for you. So I packed my heart and belongings. All I have to do is hit the road before you get here. I run away from you. I don't wanna hurt you bad. You will want me back, but I won't do that. 'Cause I'm an outlaw.
You don't want to lose yourself with me. Hey, hey.
Les femmes hors la loi, les voisins, les voisines, c'est le sujet de 7 milliards. On est avec Frédéric Ploquin, journaliste, et Christophe Régina, historien. Je voudrais quand même parler des mots avant de prendre Abdoulaye qui nous appelle de Douala. Comment on les appelle alors, les voyous, les voyoutes, les malfrates? Qu'est-ce qu'on doit dire?
Précisément, le fait qu'on hésite sur ce mot est un signe important, c'est qu'elles n'ont pas encore tout à fait leur place. On ne les appelle pas. Mais effectivement, tous les mots sont valables. Hein. Les marlouses aussi, autrefois, ils disaient les marlouses. Et les vieux voyous, quand ils parlent de femmes qui leur ressemblent, ils disent « Ah ben celle-là, c'est une marlouse ». Ça veut dire qu'en gros, elle a les mêmes codes que eux, voyous, et qu'ils la considèrent comme une des leurs.
Ouais, Christophe Régina, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, comme appellation dans les archives?
Ben, c'est intéressant justement de souligner que finalement l'argot précède la langue française entre guillemets pour désigner ce qui n'est pas encore de nom, et encore aujourd'hui on n'a pas forcément d'équivalent féminin pour le terme notamment agresseur. Bon, on parle aujourd'hui d'agresseuse, mais ça sonne comme un barbarisme aux oreilles. Mais sous l'ancien régime, la femme criminelle, on va forcément la réduire à sa sexualité, donc on va la traiter de maquerelle, de putain, de garce, mais toujours en ayant en fait une terminologie qui évoque la moralité sexuelle dévoyée. On n'a pas, en fait, de termes spécifiques pour traduire l'idée de voyou pour l'associer aux femmes.
Alors, nous partons tout de suite à Douala, puisque Abdoulaye, effectivement, veut témoigner aussi au 33 1 84 22 71 71. Bonjour, Abdoulaye.
Bonjour, Sandrine.
Alors, on est content de vous entendre. Racontez-nous ce qui se passe dans votre quartier de Douala.
Dans mon quartier ici, on peut dire que la cause principale du banditisme au féminin ici, c'est la pauvreté. La pauvreté, le rejet familial. On peut voir par exemple des filles qui n'ont aucune option que de se laisser aller dans la prostitution, la vente de la drogue, les agressions et surtout l'escroquerie. En plus, on voit des filles qui font des choses vraiment qu'on se demande si les hommes les auraient fait à leur place. Parce que quand une fille tombe enceinte dans ces conditions, elle n'hésite pas à retirer le fœtus et le jeter dans le caniveau, ce qui est surtout déplorable. On le voit dans le quotidien. Et c'est vraiment triste et c'est au vu aussi de tout le monde, les autorités publiques et même personne n'a aucune solution pour envisager, pour pallier à cette... vraiment délinquance juvénile qui est devenue très, très dangereuse dans notre société.
Alors ces femmes, effectivement, qui deviennent délinquantes, donc merci Abdoulaye pour votre témoignage. Pour lui, c'est la cause, ce serait la misère, la pauvreté. Est-ce que vous l'envisagez aussi comme ça, Frédéric Ploquin?
Écoutez, la misère est un formidable terreau pour la criminalité, mais je voudrais quand même tout de suite faire observer que la criminalité touche également les plus hautes classes de la société, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie, et que la criminalité en col blanc est extrêmement, non seulement développée, mais qu'elle a autant d'avenir que l'autre, et qu'elle ne naît pas, elle, dans la misère, mais plutôt dans les quartiers chics. Donc il y a les deux.
Christophe Régina, dans l'histoire, est-ce que vous pensez que le terreau, effectivement, de la misère pour le banditisme au féminin?
Oui, tout à fait. Il y a deux types de criminalité. Une criminalité que je qualifierais de conjoncturelle. Donc effectivement, j'ai travaillé sur les cas des prostituées Aix-en-Provence au XVIIIe siècle et beaucoup sont des occasionnels. C'est-à-dire que pour pallier en fait au manque de moyens, elles vont, en parallèle de leur activité entre guillemets officielle, eh bien, se livrer à la prostitution. Mais on a aussi des criminels de métier, je dirais, qui ne revendiquent pas un statut de miséreuse ou de misérable. Peu importe, mais au contraire, font le choix délibéré et assumé de la criminalité. Donc on a ces deux types de criminalité qui coexistent sous l'ancien régime notamment.
Alors pendant votre enquête, Frédéric Ploquin, on vous autorise donc à passer une semaine dans la seule prison de femmes en France, c'est à Rennes. Elle est toujours au centre-ville, à côté de la gare
ou... Absolument, pour l'instant, elle est là. Très, très vieil établissement.
Alors, quelle différence vous avez notée entre les hommes et les femmes quand ça se passe sous les verrous?
Écoutez, déjà, effectivement, je voudrais noter que l'administration pénitentiaire a été large et généreuse avec nous et la remercier, parce que c'est pas tous les jours que les journalistes sont admis dans les établissements. On n'y dormait pas, on n'y passait que la journée, hein, simplement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, précisément, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est-à-dire que les rapports de force sont là, dans les cours de promenade, que le racket existe, que le trafic de shit, etc., et de toutes sortes de médicaments, d'alcool, tout ce qui... Bon, et ça existe aussi avec des dealeuses, avec des chefs, etc., avec des femmes qui en imposent aux autres. Un peu. Bon, évidemment, il y a des produits de beauté, des pinces à épiler interdites.
J'ai vu que la pince à épiler était interdite en prison.
Bah, la pince à épiler, c'est comme le couteau. Hein. On n'a pas de couteau pour manger en centrale, en prison. Parce que c'est une arme potentielle, la pince à épiler, c'est pareil. Donc il y en a sous le manteau qui circule comme ça.
Et d'ailleurs, elle regarde les jambes des femmes.
Voilà.
Elles sont bien épilées, c'est qu'il y a...
C'est qu'il y a un truc. Ça. Et donc elle se taxe, elle s'emprunte, la pince à épiler, ça circule comme ça, de cellule en cellule. Mais voilà, le plus frappant, c'est cette ambiance, et puis cette même évolution qu'on constate dans les prisons pour hommes, où les détenus, les jeunes aujourd'hui, sont plus durs, plus violentes, plus injurieuses et insultantes avec les surveillantes que ne l'étaient celles d'avant. Cela dit, les vraies voyous, elles n'ennuient pas spécialement justement le personnel, elles composent plutôt avec, elles
rendent même des relations amoureuses. Hein.
Et il y a, également les relations amoureuses, mais de toute façon, la sexualité, c'est un tabou hein, en prison, que ce soit du côté des hommes ou des femmes.
Mais là, vous dites que c'est plus ouvert justement, les relations amoureuses.
Voilà, ouais. Et on en parle, je veux dire, elles en parlent entre elles, effectivement. Elles ont des relations amoureuses entre elles, souvent, et d'ailleurs il y a des tas d'histoires dans tous les sens, etc., le temps de l'incarcération.
Mais est-ce qu'elles deviennent amoureuses, des amitiés amoureuses féminines, parce que justement les hommes ne viennent pas les voir au parloir, elles sont vraiment seules quand elles sont en prison, c'est quand même ce qu'on lit.
Bah ça c'est un autre point qui m'a surpris quand je vais rendre visite à des voyous, à des détenus hommes. Dans les centrales, je vois dans la queue, avant d'entrer dans la prison, 10, 20, 30, 40 femmes. Or, quand je suis entré dans cette maison-là, à Rennes, maison une prison pour femmes, eh bien, je n'ai pas vu beaucoup d'hommes. Il y a des unités familiales, comme on dit, il y a quelques petits espaces réservés où elles peuvent, de temps en temps, avec l'autorisation de la juge, etc., avoir passé une nuit avec leur homme. Mais globalement, les hommes les abandonnent beaucoup plus que les femmes.
Il ne faut pas qu'elles comptent sur leur homme pour venir pour mener une évasion, alors que l'inverse est absolu. On va prendre Charles, oui, parce qu'il connaît aussi, il est allé dans les prisons à Abidjan. Bonjour Charles.
Oui, bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Oui, on est content de vous entendre parce que vous dirigez une ONG d'assistance et de secours et vous êtes allé dans des prisons où il y avait des femmes, racontez-nous.
Oui, effectivement, l'ONG que je dirige m'a permis de constater le taux élevé des femmes en milieu carcéral. Et je me suis posé la question de savoir quelles sont les raisons. Et une petite enquête m'a permis comme ça de savoir que c'est quelquefois à cause de la mauvaise compagnie, quelquefois également à cause de la pauvreté des familles qui amène ces femmes-là à s'intégrer facilement dans les gangs. Et bon, il y a plusieurs types. Hein. Je peux noter les anarques, par exemple. Ça peut commencer par les anarques, par la vente de la drogue, ainsi de suite. Donc, voilà. Et nous essayons de les aider comme on peut, par des vivres, etc. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y en a qui veulent en sortir. Il y en a qui veulent sortir de là. Nous essayons aussi de faire tout ce qu'on peut avec la parole de Dieu, avec les autres ONG. Je peux citer même Rema, qui fait beaucoup déjà. Voilà.
Merci beaucoup, Charles, pour votre témoignage. Alors, effectivement, ils essayent d'apporter de l'assistance, parce que ces femmes, on le disait, en prison, sont très, très isolées. Frédéric Regina, est-ce que vous avez pu étudier la condition des femmes en prison jusqu'au 19e?
Oui, donc ça c'est sur Christophe Regina. Vous tenez absolument
à m'embêter. Christophe, mais pourquoi vous appelez ?
Alors justement, je rebondis sur votre question parce que justement, je voulais attirer l'attention sur le fait que les premières structures d'enfermement presque modernes ont d'abord concerné les femmes et dans ce qu'on appelait les refuges, qui se généralisent donc au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et justement, dans ces règlements, il y avait donc une attention toute particulière aux amitiés dites particulières, justement au rapprochement qui était observé dénoncées et combattues entre détenus. À mi-mot, on dénonçait les pratiques saphiques. Et bien sûr, l'Église qui co-encadrait avec les autorités ce type d'institution veillait à ce qu'il n'y ait pas de rapprochement trop proche entre les femmes enfermées. Finalement, dans ces structures d'enfermement, c'est par le travail et par la prière que les femmes, en fait, étaient censées revenir dans le droit chemin. Alors que pour les hommes, en fait, il n'y a pas de structure analogue avant le 19e siècle.
Merci beaucoup, Christophe Régina. Christophe, historien donc du genre, vous avez publié La violence féminine, histoire d'un tabou social. Pour terminer, d'où nous viendrait aux éditions Max Milo cette répugnance en fait de la société à parler de cette violence féminine?
Je pense qu'on n'est pas sorti en fait du hiatus entre féminité et maternité, et qu'aujourd'hui encore, c'est la rencontre de ces deux figures qui fait l'objet d'un amalgame et qui court-circuite, entre guillemets, la prise en compte de cette violence au féminin.
Frédéric Ploquin, merci aussi d'avoir été avec nous. Vous publiez avec Maria Poblette. Femme hors la loi chez Fayard. C'est quand même, on a fait fort, on a fait une émission sur les femmes sans en entendre une seule. Il n'y avait que des voix d'hommes aujourd'hui.
Oui, mais moi, vous étiez là.
J'enquête pas dessus. Merci en tout cas pour avoir été avec nous, nous avoir un peu emmené dans les coulisses du banditisme féminin. Merci à toute l'équipe. Et demain, alors qu'y a-t-il dans la tête des hommes? On change de camp. Performance, est-ce qu'ils assurent vraiment? Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à être compris aussi par les femmes? On vous attend donc sur ce terrain pour aller voir comment il n'est pas facile d'être un homme aujourd'hui au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Je vous dis à demain, portez-vous bien.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.
Tous les jours, Accent d'Europe.